puisque le gouvernement égyptien a débloqué des fonds pour la diffusion du livre en Égypte. On a vu là récemment le gouvernement iranien, donc qui n'est pas un gouvernement arabe, mais qui est un gouvernement islamique, annoncer lui-même qu'il assurait la traduction et la diffusion en langue farsie. On a vu le président Musharraf, le président du Pakistan, prendre position d'une manière on ne peut plus inattendue, puisque tu te souviens que au moment de la guerre d'Afghanistan, quand la communauté internationale avait demandé aux Américains des preuves de l'implication d'Oussama Ben Laden et de la responsabilité des talibans, les États-Unis avaient finalement refusé de publier ces preuves et avaient dit qu'elles devaient rester secrètes pour des raisons de sécurité nationale. Ils avaient donc alors montré ces preuves à Tony Blair, le Premier ministre britannique, et au général Musharraf, le président pakistanais, qui tous les deux s'étaient déclarés convaincus par ces preuves, et donc la communauté internationale leur avait fait confiance, on avait dit c'est la faute à Ben Laden. Mais voilà que le général Musharraf et ses ministres, après avoir pris connaissance de mon livre, ont changé d'avis. Et Musharraf a fait une déclaration cet été au New Yorker, où il explique que, ayant pris connaissance d'éléments nouveaux et ayant réfléchi à tout ça, il considère que les preuves qu'on lui a montrées ne prouvent en réalité rien du tout, et il a déclaré qu'il était aujourd'hui convaincu qu'Oussama Ben Laden ne pouvait absolument pas être l'organisateur de ces attentats, même si éventuellement il avait fait partie des exécutants. Donc on a des cascades de réactions politiques, dont évidemment le public français n'est absolument pas informé, vu que la presse française continue à me présenter comme un timbré, et donc ça l'obligerait à dire soit qu'elle s'est trompée, soit aussi que tous les dirigeants dont je parle sont également des timbrés, ce qui était difficile à dire. Donc ce mouvement est en train de gagner, et là, pour le moment, bon, mes voyages, c'était surtout dans le monde arabo-musulman, mais là, je m'apprête à mener des interventions également devant des dirigeants politiques en Europe centrale et orientale et en Amérique latine.
D'accord, parce
Donc,
que
en fait,
finalement, ces tribunes
oui.
qu'on t'a offertes sont les mêmes tribunes qu'un Garaudy révisionniste et
Ah non,
qu'on
pas du tout.
t'a
Non.
largement insulté sur cette base. Tu as été traité de révisionniste
Oui.
par pas mal de quotidiens français. Ça donne de l'eau au moulin
Non,
de ceux
alors.
qui te considèrent comme un révisionniste.
Bon,
C'est-à-dire
alors
que ceux
d'abord.
qui sont prêts à écouter tes thèses, finalement, sont ceux qui écoutent les thèses de Garaudy
Bon, alors
révisionniste
d'abord,
célèbre.
Fabien, à ma connaissance, Roger Garaudy n'a jamais été auditionné par la Ligue arabe. Hein, je pense que ça n'a jamais eu lieu à une telle chose.
C'est une star en Égypte.
Ouais, c'est une
Et
star en Égypte.
le moment où je t'ai vu, moi, en photo, je crois que
Ouais.
c'était dans Marianne, je suis pas sûr, tu étais en Égypte, où tu étais, où il y avait, ça parlait de l'Égypte. Donc le lien était
Non
peut-être
mais,
volontaire,
oui mais
mais
je sais bon.
regardez, on avait raison de le traiter de révisionniste, puisque l'Égypte l'accueille, tout comme Garaudy, quoi.
Alors, c'est quand même un raisonnement assez spécieux qui consiste à dire que parmi mes lecteurs, il y aurait des gens qui sont révisionnistes et que donc ça impliquerait que je suis révisionniste.
Voilà,
Il se peut que parmi
c'est
les
des
gens
méthodes insidieuses
Bah oui.
classiques.
Mais il se
Ça
peut
ne
que
veut pas
parmi
dire.
les gens qui nous écoutent ce soir, il y ait des gens qui soient révisionnistes, et ça ne veut pas dire que nous sommes sur une antenne révisionniste.
Ça veut pas.
Ça ne veut pas dire
Est-ce
lourde.
qu'il y a eu un écho de ton premier ouvrage et
Oui.
de ton douzième, dans des pays proches des États-Unis, comme par exemple la Turquie
Oui.
ou des pays d'Europe?
Oui, bien sûr. Ah ben nous allons mettre demain sur notre site internet d'ailleurs une analyse de une revue de presse internationale sur ce sujet. En fait, aujourd'hui, pratiquement dans le monde entier, ce livre a été débattu et les réactions peuvent être analysées comme ça. En fait, on a des réactions négatives de la presse en France, en Grande-Bretagne, au Canada anglophone et aux États-Unis. C'est les seuls pays où la presse est hostile. Ensuite, on a des réactions positives dans tout le reste de l'Europe. Hein. Alors il y a des pays où c'est même spectaculaire, si vous voulez, par exemple je sais pas, en Suisse, dans les premiers jours, ils ont repris les absurdités du monde et de Libération. Donc, ils étaient assez hostiles. Et puis, quand le livre est arrivé en Suisse, ben, on a vu tout un tas d'articles aller exactement dans le sens inverse. Et là, dans les dernières semaines, les grands hebdomadaires suisses, qu'ils soient francophones ou de langue germanique, ont consacré des dossiers pour reprendre à leur compte l'essentiel de mes travaux.
Mais excusez-moi, bon, attendez, je voulais juste oui. Dans la même oui. question que Fabien, ça veut dire qu'en gros vos thèses, oui. elles ont été récupérées par certains hommes politiques dans leur propre intérêt, par pragmatisme.
Mais attendez, je vais répondre à ça parce voilà. qu'alors il faut admettre que il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts complètement différents et qui récupèrent cette chose-là. Donc on voit alors je vous dis que c'est le cas dans toute l'Europe, hein. J'étais là en Espagne ces jours-ci. Si je regarde les journaux de droite comme El Mundo m'a donné une tribune pour m'exprimer. Vous regardez des journaux de gauche comme le centre gauche comme El País a fait l'apologie de mon travail. Cambio 16 pour encore plus à gauche a fait m'a donné une très très longue tribune et là j'étais l'invité l'équivalent de la fête de l'humanité là du Parti communiste espagnol il y a quelques jours. Bon. Donc c'est sur tout l'échiquier politique où pourtant les gens ont des intérêts totalement différents, eh bien ils trouvent tous que mes travaux sont des travaux de référence. Bon. Ensuite vous regardez dans l'ensemble des pays musulmans. Là, évidemment, la réception du livre s'explique peut-être d'abord par le fait que mes travaux montrent qu'il n'y a pas de culpabilité collective du monde arabo-musulman et que toutes ces conneries de guerre des civilisations ne reposent sur rien. Donc, effectivement, pour ces gens-là, c'est un poids en moins. Donc, on peut comprendre ce oui. type d'accueil à cet endroit-là.
Oui.
Maintenant, on va voir toute l'Amérique latine. Vous voyez, mon livre actuellement, il est numéro 1 des ventes en Argentine, numéro 4 en Colombie, etc. Bon. Donc vous voyez tout ce qui se passe en Amérique latine. Là, chez eux, il y a un réflexe qui est, et c'est le seul endroit où moi je le vois, ce réflexe, il y a un réflexe qui est un réflexe anti-américain assez prononcé, enfin anti-nord-américain assez prononcé, de gens qui ont été victimes au cours des dernières années de l'impérialisme nord-américain. Voyez après les réactions en Europe centrale et orientale.
Oui.
Hein, par exemple, mon livre est actuellement numéro un des ventes en Croatie, en Yougoslavie. Il vient de pulvériser tous les records de ventes historiques. Il y a aucun livre qui s'est jamais autant vendu que ça en Bulgarie, etc. Bon, donc dans ce genre de, ou je sais pas, en Tchéquie, dans ce genre de pays. La réception du livre, c'est pas du tout un réflexe anti-américain. C'est des gens qui disent nous, pendant les dernières années, on a été victime de l'empire soviétique et les mensonges d'État, on en a gobé tous les jours. Et maintenant, on ne nous fera plus avaler. Et donc, c'est une sorte de réaction par rapport au fait que après avoir subi les mensonges des soviétiques, ils ne veulent pas subir les mensonges du gouvernement américain.
Alors, donc, ce qui est très oui. inquiétant pour moi, c'est que la presse française sera la botte de pour crier comme ça comme un seul homme.
Moi ça.
La presse française est à la botte de qui? Enfin, comment ça fonctionne? Parce qu'on parlait tout à l'heure l'invité qui était au téléphone. Oui. Parler de Heidelberg, c'est pas Heidelberg, c'est Hildeberg, parce que c'est en Hollande, donc on dit pas Heid, on dit Hild. Et là, c'est une espèce de réunion comme ça, de la grande finance qui décide un petit peu de la stratégie adoptée sur l'échiquier géopolitique mondial. Bon, mais là, est-ce que il y aurait la presse française serait aux ordres du complot international?
Non, c'est pas ça. Bon, dans la presse française, il y a plusieurs types de réactions. Vous avez des groupes qui ont des réactions d'ordre idéologique, et puis après, vous avez un effet moutonnier du reste de la presse. Alors, la presse idéologique, c'est par exemple le rôle du journal Le Monde, qui, faisant son éditorial le 12 septembre, Nous sommes tous américains, qui est quand même un éditorial incroyablement outrancier, à un moment où... aux États-Unis, on essayait d'expliquer que les victimes appartenaient à plus de 80 nationalités différentes. l'éditorialiste, monsieur Colombani, ne dit pas nous sommes tous des victimes du World Trade Center et le monde entier est concerné par ça. Il dit nous sommes tous américains choisissant de rétrécir la réalité pour se placer comme un serviteur des États-Unis. Et c'est tellement visible qu'il y a deux semaines, le journal Le Monde interroge, fait une grande interview à la une de Colin Powell, le secrétaire d'État américain, lequel commence en félicitant le journal Le Monde pour cet excellent éditorial de Jean-Marie Colombani et pour son soutien sans faille à la politique du gouvernement Bush.
Mais donc Colombani, voilà, il y a des gens qui... Gauche,
pardon? Pardon?
Colombani, il n'est pas de gauche, je comprends plus rien.
Oui, ben la même chose s'applique à Monsieur Blair, qui était de gauche avec Bill Clinton et qui enfile le pas derrière George Bush, qui est de droite, sans aucune difficulté. Donc il y a toujours des gens pour servir la puissance dominante.
Je voulais évoquer aussi ce que vous dites sur les journalistes français, et notamment ceux du Monde. Il y a quand même eu...
Je suis journaliste français, moi aussi.
Oui,
hein.
Différente. La preuve qu'il n'y a pas un complot, alors.
Bah oui.
Et qu'il y a plusieurs journalistes. Il n'y a pas
j'ai
les
jamais
médias.
Jamais dit qu'il y avait un complot.
Il n'y a pas les médias.
Il y a tous les journalistes français, puis il y en a un qui, balance des thèses comme ça.
Mais les journalistes, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en France, ils sont plutôt contre votre thèse.
C'est les patrons de presse qui sont contre ma thèse.
Mais il y a quand même un certain nombre de variantes. J'ai été aujourd'hui en conversation avec deux journalistes qui ont étudié de près votre cas, si je puis dire. Il y a d'abord qui tous les deux sont contre vous, mais il y a d'abord Jean Guinel qui est au point. Lui, je lui ai proposé de venir, il m'a dit hors de question débattre.
Alors moi je tiens à souligner ça, monsieur Guinel.
Monsieur
Guinel a écrit un livre contre moi et refuse toute confrontation publique.
Absolument. Il dit c'est quelqu'un de malhonnête et je ne veux pas débattre contre lui.
Voilà, donc l'honnêteté c'est de ne pas débattre.
C'est en tout cas ce qu'il m'a dit matin.
Mais on aura l'occasion de débattre devant un tribunal puisque nous sommes en procès l'un avec l'autre, donc on verra ce qu'il ressort de cette confrontation arbitrée par des juges.
Et il y a un autre type de personnes du Monde, notamment Hervé Kempf, qui a souvent pris de la distance par rapport à son propre journal, notamment sur une question de photo sur laquelle on reviendra tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire qu'il a reconnu publiquement que son journal, que la direction de son journal lui avait imposé la publication d'une photo avec une légende tendancieuse pour, je cite, « induire les lecteurs du Monde en erreur ».
Absolument, et c'est la preuve qu'il est honnête.
Ah mais tout à fait.
Donc, lui était prêt à venir ce soir, mais il ne pouvait pas matériellement.
Pas de chance,
c'est bien dommage. Donc ça montre que les journalistes sont en général contre vous, mais souvent ouverts. Lui a fait une véritable thèse, a fait une véritable enquête sur votre thèse. Il est allé enquêter dans une enquête... très fouillé, on aura l'occasion d'en reparler ensuite.
Donc vous savez que il m'a reproché de ne pas être allé aux États-Unis, et lui il y est allé et après il a pas publié ce qu'il a fait en étant aux États-Unis.
Ne mettez pas non plus tous les journalistes dans le même sac.
Attendez, je viens de vous dire tout à l'heure justement qu'il fallait pas mettre tout le monde dans le même sac, qu'il y avait une part idéologique. Et j'ai stigmatisé le rôle de Jean-Marie Colombani parce qu'il est vraiment éclatant. Et puis qu'il y avait une part moutonnière après de gens qui n'osent pas aller contre l'opinion dominante.
Alors moi je vais vous laisser, je vais continuer à vous écouter, mais j'avais en fait une question à poser. Moi je me sens très proche du peuple américain, beaucoup moins des dirigeants, comme je le sentais absolument très proche de Reagan, ce qui empêche que je trouve au peuple américain des réelles qualités de générosité et de... un peu trop naïf certes, mais parce qu'ils sont élevés un petit peu dans le luxe, donc ça aiguise pas forcément son jugement quand c'est comme ça. Mais je trouve que pour moi c'est la plus grande démocratie, ou ça l'a été. Donc c'est quelque chose de très précieux pour le reste de la planète. Alors le fait qu'ils soient les plus puissants, bon, c'est les plus puissants, donc souhaitons-leur du bien, au contraire. Souhaitons-leur qu'ils gardent les yeux ouverts, parce qu'il vaut mieux avoir des puissants éclairés que des puissants qui ne le sont pas. La question que je voulais vous poser, je dis vous parce que je parle à la fois à Thierry et à Monsieur Bunel, c'est ça qui est parti. Et s'il pouvait juste revenir, je suis sûr qu'il est encore à l'écoute. Il ne peut pas dormir. Vous n'avez pas peur pour vos vies, pour vos familles, pour vos... Parce que si cette thèse est vraie à 50%, vous n'avez pas peur pour vous, pour votre santé, pour et puis est-ce que vous n'avez pas eu des pressions, voilà, tous les deux? Alors si l'autre intervenant pouvait réintervenir pour nous, nous expliquer ça. Je sais que c'est un militaire et qu'il en a d'autres, mais quand même. Et puis un journaliste aussi, normalement il combat pour ce qu'il croit être la vérité, donc il n'a pas de raison d'avoir peur, mais je vous pose quand même la question. Je vous souhaite une bonne nuit, je suis à l'écoute et je vais raccrocher.
À bientôt Fabien.
Merci Fabien.
Alors dépression, je peux pas parler au nom de Pierre-Henri Bunel, mais enfin en ce qui me concerne, j'en ai eu beaucoup. Des menaces de mort, j'en ai eu beaucoup. Mais la question ne se pose pas comme ça pour moi.
Vous avez pu identifier d'où viennent les menaces?
Ah, elles sont toutes venues des États-Unis, donc ça c'est assez simple. Mais bon, après, bon, j'ai remarqué quand même que toutes les lettres que je recevais avaient à peu près le même schéma, quoi. Que tout ça, ça semblait assez coordonné. Enfin bon, et puis il y a eu toute la campagne qui a été organisée contre moi dans des journaux américains avec des encarts publicitaires qui ont été achetés où je suis insulté, traîné dans la boue. Il y a eu les appels au boycott qui ont été lancés aux États-Unis contre la France à cause de moi, les attaques dont l'ambassadeur de France à Washington a été l'objet, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Bon. Mais tout ça, ça n'est rien par rapport à ce que la population afghane vient d'endurer et à ce que la population irakienne risque de devoir affronter. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même avoir le sens des proportions. Tout ça, c'est pas bien grave quand on parle de guerre, en fait.
Pierre-Henri Bunel est de nouveau avec nous.
Absolument.
Rebonsoir, et va répondre à la question de Fabien, alors.
Alors, deux choses. D'abord, je tiens à préciser que c'est bien Heidelberg, en Allemagne, où se sont tenues des réunions au mois de décembre 2000. Heidelberg, où est le PC de Arsène, le commandement des forces de l'armée de terre en Europe. Bon, alors, maintenant, quant à la question de la menace. Oui, j'ai souvent eu des menaces, mais pas sur ce sujet-là. J'ai eu des menaces de la part du gouvernement français, bien placé pour les exécuter, et en fait, vous savez, parmi les gens qui menacent, il y a quand même beaucoup de fantasques. Et en ce qui me concerne, sur un certain nombre de vérités que je dis, que j'écris, que je publie, non, j'ai eu plutôt des accrochages que des menaces. Maintenant, ce que disait Thierry est tout à fait vrai. Il faut prendre ça avec philosophie. Les menaces, c'est une chose, et la réalité des coups sur le terrain, c'en est une autre. Et moi, je suis beaucoup plus inquiet pour les Irakiens actuellement, parce qu'on a vu ce qui est arrivé aux Afghans cet hiver. Voilà.
Merci pour cette réponse, Pierre-Henri Bunel.
Et puis, je voudrais répondre aussi à l'autre question de Fabien Wacky, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Oui, les États-Unis ont été un symbole de la démocratie dans le monde, hein, depuis Tocqueville. Et lorsque la démocratie aux États-Unis est malade, c'est une maladie qui touche le monde entier. Bon, aujourd'hui, les États-Unis vont de dérive en dérive. Donc ça a commencé par la désignation d'un président minoritaire. Donc je vous rappelle quand même que c'est quelque chose qu'on n'accepterait pas normalement ailleurs. Le président Bush n'a pas été élu. Et le dépouillement...
Légalement, il l'a été.
Non, il n'a jamais été élu. Il n'est pas élu. Le président Bush n'est pas élu.
Il a fait moins de voix, mais par rapport au système électoral américain, il a été élu.
Non, pas du tout. Pas du tout. Les résultats définis...
Même son concurrent l'a reconnu.
Non, pas du tout. C'est pas vrai.
Il a fait une déclaration dans ce sens.
Mais attendez. Les résultats définitifs ont été proclamés le 15 septembre, quatre jours après les attentats. Le président Bush était minoritaire aussi bien en nombre de voix qu'en nombre de grands électeurs, mais la Cour suprême n'est pas revenue sur sa décision de désignation. Et Al Gore a renoncé à porter une nouvelle affaire devant la Cour suprême. Voilà, on en est là. Mais ça, dans aucun autre pays, vous n'accepteriez ça. Bon. Je répète, le président Bush n'a pas été élu, il a été désigné, et il est prouvé depuis qu'il est minoritaire. Ensuite, le pouvoir aux États-Unis a changé de structure après le 11 septembre. Contrairement à la Constitution des États-Unis, on a changé par voie de décret l'ordre hiérarchique, l'organigramme même de l'administration américaine. Jusque-là, vous savez que le premier personnage de l'État, c'était le président. Quand il était défaillant, c'était le vice-président. Si le vice-président, qui est aussi un élu, est défaillant, c'est le président de la Chambre des représentants qui est un élu. Si celui-ci est défaillant, c'est le président pro tempore du Sénat qui est encore un élu. Cet ordre de hiérarchique a été abrogé et à la place, désormais, vous avez le président et le vice-président, ça ne bouge pas, mais lorsque ces deux personnages se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, le pouvoir échoit aux militaires et non plus à d'autres élus.
Ce que vous dites, vous pensez qu'on est en train d'organiser un coup d'état militaire?
Ce que je vous explique, c'est que dans n'importe quel pays où on vous raconte ça, vous diriez que ça n'est pas une démocratie et que vous êtes déjà dans un régime militaire. Bon. Je rappelle que ce décret qui a été adopté, qui a été signé le 11 janvier dernier par le président Bush, c'est un décret anticonstitutionnel, comme le sénateur Thomas Daschle l'a largement expliqué au Congrès des États-Unis, mais néanmoins, ce texte est toujours en application. Hein ? On rappelle que Thomas Daschle, c'est le leader de des démocrates au Sénat. Bon, donc, si le président et le vice-président sont empêchés, alors ce sera le secrétaire à la défense et le chef d'état-major des armées qui prendront le pouvoir. Dans cette éventualité, le chef d'état-major a déjà été amené à constituer, de la manière la plus officielle qui soit, un gouvernement militaire de remplacement. Ce gouvernement militaire siège déjà dans un bunker à côté de Washington. Le Congrès n'a pas pu avoir communication des noms des personnes qui composent ce gouvernement alternatif. Bon. Simplement, la seule chose qui est établie, c'est que le chef d'état-major obtient pour ce gouvernement alternatif la totalité des informations dont dispose le gouvernement civil, de telle sorte que si le président et le vice-président étaient empêchés, l'ensemble de leur gouvernement sauterait et le gouvernement militaire prendrait dans la seconde sa succession sans le moindre problème de transmission. C'est ce qui nous est expliqué officiellement. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on appelle un chat un chat. Un pays où il y a deux gouvernements, un gouvernement civil et, dans le dos, un gouvernement militaire de remplacement. On a déjà vu ça, hein, en Turquie, en Algérie, on n'a jamais dit que c'était des démocraties. Donc les États-Unis sont atteints par un mal extrêmement profond. Puis il y a eu les lois antiterroristes, l'USA Patriot Act et tous ces développements qui ont suspendu les libertés fondamentales, alors même que depuis deux siècles, les États-Unis s'enorgueillissent, et à très juste titre, de leur constitution et de la Bill of Rights, les amendements constitutionnels.
Ils n'avaient jamais été touchés en leur cœur pendant deux siècles aussi.
Écoutez, moi, je constate que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu l'affaire terrible de l'internement des ressortissants d'origine japonaise, même quand il y a eu le macartisme, etc., on n'a jamais vu aux États-Unis ce que l'on voit aujourd'hui, la suspension des libertés fondamentales au nom de l'antiterrorisme.
On n'a jamais vu une attaque non plus à l'intérieur du territoire américain.
Enfin, moi, je veux bien, mais si vous considérez que ça, c'est plus important que la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même un problème d'échelle de valeur. Bon.
Non, je dis pas que c'est plus important, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Bah. J'ai dit que la situation américaine, qui s'est passé le 11 septembre, dans l'histoire des États-Unis, est totalement inédit, on est d'accord là-dessus.
Mais on est d'accord, évidemment. Mais
Je dis pas que c'est plus important ou moins important à l'échelle mondiale.
Les libertés fondamentales ont été suspendues pour 4 ans. Hein. Ça implique, par exemple, que... pour la presse, il n'y a plus de secret des sources, donc l'absolue impossibilité de mener des enquêtes comme on le faisait auparavant. Pour le justiciable, vous avez la possibilité d'arrêter des gens et de les mettre au secret pour une durée de 6 mois, renouvelable de 6 mois en 6 mois, sans limite. Que quand ces gens sont mis au secret, ils ne sont même pas informés des charges précises qui pèsent contre eux et n'ont pas accès à leur dossier judiciaire, que s'ils rencontrent des avocats,
Leur entretien avec leur avocat est enregistré et peut être utilisé contre eux. Vous avez la question de la réorganisation des armées aux États-Unis. Vous savez que depuis la guerre de sécession, il y avait un principe fondamental dans la vie politique américaine. On se méfiait extrêmement des militaires et donc on avait constitué une armée de l'intérieur, ce qu'on appelle la garde nationale, qui obéissait au gouverneur, et puis une armée de l'extérieur, celle qu'on a l'habitude de voir dans tous les théâtres d'opération de par le monde, qui, elle, obéit au président des États-Unis. Et il était entendu que cette armée de l'extérieur, en aucun cas, ne pouvait se déployer à l'intérieur ni intervenir dans les questions de politique intérieure. Or, depuis le 11 septembre, on a réorganisé tout ça en créant un commandement unifié pour le territoire américain et l'Amérique du Nord, de telle sorte que aujourd'hui, c'est un militaire de l'extérieur qui chapeaute tout ça. Et vous avez le déploiement non seulement de la garde nationale, mais de cette armée sur le territoire américain, dans une sorte de plan vigipirate, si vous voulez, super renforcé, qui fait que les militaires ont pris aujourd'hui le contrôle total et visible de la sécurité intérieure. Est-ce que vous accepteriez que, en France, ce soit le ministre de la Défense qui prenne l'entier contrôle de la police ? Certainement pas.
Alors nous avons avec nous Christophe en direct au standard, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir Thierry.
Bonsoir. Alors,
je connais un peu, je suis Christophe Leleu.
Ah, bonsoir.
Bonsoir. Et tu viens de répondre à ma question en fait, parce que je disais, mais alors quel est l'intérêt, dans l'intérêt de qui, tout ça, tu viens de répondre. Est-ce que tu as vu sur Arte, il y a 3 semaines, une émission qui faisait parler des intellectuels américains qui clairement disaient « nous sommes mûrs pour le fascisme ».
Oui, j'ai vu ça.
On va bien au-delà du maccartisme en ce moment.
Oui, absolument, bien sûr.
Excusez-moi, je vous interromps une seconde tous les deux. Christophe, pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît ?
Oui.
Vous aurez le son dans le téléphone.
Alors, voilà. Au
cours des derniers mois, il y a eu aux États-Unis un mouvement d'opposition qui a commencé à se développer et s'organiser. Donc il y a eu cette pétition d'abord au départ ils étaient une 60aine, mais maintenant ils sont près de 200, de très grands intellectuels américains, des professeurs d'université, des gens tout à fait reconnus, qui ont appelé au secours en disant « Venez nous aider, vous, Européens, car le fascisme est en train de s'installer chez nous. Notre régime devient un régime militaire. Et si vous êtes de vrais alliés, vous ne devez pas fermer les yeux là-dessus. Vous devez nous aider. » Voilà. Mm-hmm. Et puis, vous avez eu, il y a des parlementaires qui ont pris des positions très en pointe sur ce sujet. Et puis, là, vous avez ces jours-ci, par exemple, une pétition de 1300 historiens américains. Et je veux dire, il y a tous les grands noms des grandes écoles historiques américaines. 1300 historiens américains qui viennent de saisir l'opinion publique aux États-Unis en disant, on ne peut pas laisser un système de plein pouvoir s'installer comme jadis dans l'Empire romain, et George Bush ne doit pas être un impérator. Bon. Vous pouvez trouver, tous ces textes sont disponibles sur notre site internet. Vous les avez traduits, vous avez les originaux anglais et les traductions en français.
Sur le site du réseau Voltaire, il y a un lien établi avec Timothy McVeigh. Assez directement entre Pentagate effroyable imposture, et où on parle à ce moment-là il y avait tout un ensemble de troupes d'élite, un corps de troupes d'élite qui projetait dès 95 de s'attaquer au Pentagone.
Oui.
Est-ce que ça aurait on parle toujours des mêmes gens?
Écoutez-moi, je peux juste amener des éléments, je peux pas franchir certains pas dans leur interprétation. Les éléments que j'ai amenés, c'est donc à l'intérieur même des forces spéciales américaines se trouve un petit groupe qui, déjà du temps du président Clinton, a posé des problèmes d'une extrême gravité en termes de sécurité intérieure. Le président Clinton avait demandé une enquête interne sur tout ça, qui a été rendue publique, qui a montré la gravité de ce groupe séditieux à l'intérieur des forces spéciales. Il se trouve que ces gens ont un journal, qui d'ailleurs était imprimé,
à Fort Bragg, c'est-à-dire dans le, au lieu même, au centre de formation des agents de la CIA. Et dans ce journal, on pouvait lire, il y a déjà, finalement ça doit faire 4 ans, hein, on pouvait lire que ces gens-là projetaient un attentat contre le Pentagone. Et on se souvient que le 11 septembre, le général Wesley Clark, l'ancien suprême commandeur des forces de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, le général Wesley Clark a déclaré sur CNN, le 11 septembre, que l'attentat du Pentagone n'était pas une surprise, qu'il savait déjà depuis longtemps que quelque chose comme ça se préparait, mais qu'il n'avait pas été en mesure de l'arrêter.
Christophe, dans le premier livre, dans l'effroyable imposture, tu fais dire à Ronald Rumsfeld qui parle de divine surprise.
Oui. Alors dans le premier livre, j'ai pas le texte là sous les yeux, mais dans le premier livre, je raconte que Donald Rumsfeld, en janvier 2001, a rédigé un rapport tout à fait public et qu'on peut également trouver sur notre site internet, dans lequel il essaye de promouvoir le projet de guerre des étoiles. Et il se plaint de ce que personne ne veut casser sa tirelire pour payer ce projet pharaonique. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il faudra pour que notre pays accepte ça? Il faudrait... voilà le livre, je vais passer tout de suite. Je vais vous lire la... parce que c'est assez édifiant le texte lui-même. Donc, il écrit, voilà, l'histoire est pleine de situations dans lesquelles on a ignoré les avertissements et résisté au changement jusqu'à ce qu'un événement extérieur, jugé jusque-là improbable, vienne forcer la main des bureaucraties réticentes. La question qui se pose est de savoir si les États-Unis auront la sagesse d'agir de manière responsable et de réduire au plus vite leur vulnérabilité spatiale, ou bien si, comme cela a déjà été le cas par le passé, le seul événement capable de galvaniser les énergies de la nation et de forcer le gouvernement des États-Unis à agir doivent être une attaque destructrice contre le pays et sa population, un Pearl Harbor spatial. Dans ce texte, signé en janvier 2001, monsieur Rumsfeld appelle de ses voeux un Pearl Harbor spatial pour forcer le gouvernement des États-Unis. Et ce qui est étrange, c'est que le 11 septembre, quand ce désastre a eu lieu, Donald Rumsfeld a laissé éclater sa joie. Alors, on se souvient qu'à 18h30, il organisait une conférence de presse au Pentagone, que pour montrer l'unité du peuple américain dans ce moment de grande difficulté, les différents dirigeants de la majorité et de l'opposition parlementaire étaient venus à cette conférence de presse lui apporter leur soutien. Et lorsque le sénateur Carl Lewin, qui représentait les démocrates, est venu dire, bien évidemment, que voilà, on était tous unis, qu'il n'était plus question de politique aérienne et qu'il fallait faire face aux difficultés, à ce moment-là, Donald Rumsfeld, à la surprise générale, devant les caméras du monde entier, s'est tourné vers Lewin, l'a pris à partie, lui disant, je cite, « Vous, ainsi que d'autres représentants démocrates au Congrès, avez exprimé la crainte de ne pas avoir les moyens de financer l'importante augmentation des budgets de défense sollicités par le Pentagone, notamment la défense antimissile. Vous craignez d'avoir à puiser dans les fonds de la Sécurité sociale pour financer cet effort. » Est-ce que le genre d'événement qui vient de se produire suffit à vous convaincre qu'il est urgent pour ce pays d'augmenter les dépenses consacrées à sa défense et que s'il faut, il faudra puiser dans les fonds de la sécurité sociale pour payer les dépenses militaires, que dis-je, l'augmentation des dépenses militaires. En d'autres termes, ce monsieur trouve le moyen de dire le 11 septembre, est-ce que ça vous suffit ou est-ce qu'il en faut d'autres?
Merci à vous, Christophe. On va avoir le standard.
Pour conclure.
Pour conclure, oui.
Oui, pour répondre à ta question en moitié, Antoine, qui parlait de crainte pour sa vie éventuellement, est-ce que le fait de publier n'est pas déjà une assurance vie?
Merci Christophe, bonne soirée. Je rappelle aux auditeurs que nous ouvrons le standard. Le standard est ouvert d'ailleurs, c'est comme ça que Christophe a pu nous joindre. Vous avez l'impression qu'on vous coupe? Non, on vous laisse le temps, mais il faut que tout le monde puisse passer. Donc 01 45 75 44 44 ou 01 45 75 45 deux fois. Je te laisse la parole, Antoine.
Alors la publication, une assurance vie, Thierry Messon.
Moi, je pense pas vraiment, mais la question de la publication, elle se pose pas comme ça. Moi, j'ai fait une enquête, j'ai trouvé des choses qui me paraissaient terribles et que j'avais envie de communiquer. C'est tout.
Alors, on va revenir sur les arguments que vous apportez pour votre thèse. Notamment celui des traces. Des traces visuelles sur les photos, enfin des non-traces justement de l'avion. Vous avez...
Non, attendez. Moi, j'insiste bien là-dessus parce que une fois sur deux, le débat part dans le mauvais sens. Le problème, ça n'est pas l'absence sur les photographies de débris d'avion, c'est l'absence de traces d'impact. On est bien d'accord.
Et donc nous avons parlé tout à l'heure d'une photo qui a servi de preuve au monde. Qui voulait servir de preuve au monde,
oui.
Qui est dans votre livre, effectivement, où on voit entre guillemets, la preuve de l'avion, et que vous avez remis en cause. Alors,
oui.
Et que même Hervé Kempf, qui est journaliste au Monde, a remis en cause. Alors, oui. Expliquez rapidement un peu la situation. Alors,
il y a beaucoup de choses sur cette photo, mais donc elle a été diffusée par Associated Press dans la journée du 11 septembre. On voit un morceau de tôle déchirée qui est sur la pelouse du Pentagone, et la légende d'Associated Press était de dire que c'était un morceau du Boeing 757 qui venait de s'écraser là. Bon, donc ça a été repris comme ça partout. Le problème, c'est qu'en fait, le Pentagone ne l'a pas reconnu comme étant un morceau de Boeing 757, et surtout le vrai problème, c'est que si c'était un morceau d'un Boeing 757 d'American Airlines, on devrait pouvoir jouer comme dans un puzzle et dire de quel morceau il s'agit. Or, ce morceau a des peints, il y a donc des couleurs précises, là, évidemment vous ne pouvez pas le voir par la radio, mais il y a des couleurs précises sur ce morceau, et quand on regarde les avions d'American Airlines tels qu'ils sont peints, il n'y a aucun endroit de l'avion dont ce morceau puisse provenir. Alors, ça ne peut matériellement pas être un morceau d'un Boeing 757 aux couleurs d'American Airlines. Et ce que je vous dis peut vous paraître bizarre, mais je peux vous annoncer que la semaine prochaine, un grand journal américain va publier un texte d'un pilote et syndicaliste d'American Airlines qui va développer tout ça.
Alors, vous vous étonnez de l'absence de débris et d'impact de l'avion sur les photos. Hervé Kempf vous répond en partie, oui, dans ces quelques lignes que je vais lire. C'est le principal argument soulevé par le réseau Voltaire. Deux points. Il s'appuie sur les photos qui ne montrent pas de grosses pièces d'appareil. Indépendamment du fait que d'autres images montrent de petits débris qui pourraient provenir de l'appareil, cet argument ne convainc pas les experts aéronautiques consultés par Le Monde. Pour eux, la violence du choc et l'incendie subséquent expliquent qu'on ne retrouve pas de débris importants. Je cite, « L'impact s'est produit avec une extrême énergie, provoquant la pulvérisation de l'appareil, note l'un d'entre eux, et un embrasement immédiat. À la différence des voitures, les avions sont surtout composés d'aluminium, qui entre en fusion vers 600 degrés et les structures de l'appareil ont pu fondre. Un autre ingénieur ajoute que, ouvrez les guillemets, il est facile de prouver qu'il y a eu un accident d'avion. On prend beaucoup de photos de près dans les enquêtes et les débris d'avion sont très caractéristiques. Fermez les guillemets. De telles photos n'ont pas été diffusées. Un porte-parole du ministère de la Défense, Glenn Fould, nous a déclaré, j'étais sur les lieux le matin même, j'ai vu des pièces de l'avion très petites. Alors
d'abord,
thèse de spécialiste contre d'autres spécialistes.
Non, pas du tout. Il n'y a aucun spécialiste qui s'est exprimé là-dedans.
Des ingénieurs consultés, des experts aéronautiques.
Alors c'est vrai. Je vais vous parler de la méthode.
Vous lui faites confiance.
Pas du tout, parce que je vais vous expliquer comment cet article a été écrit. Donc, Monsieur Kempf a d'abord demandé avoir l'exclusivité pour son journal concernant la publication de mon premier livre. Moyennant quoi, il nous a fait poireauter pendant plusieurs semaines, nous empêchant de diffuser ces informations en dehors de son journal. Il a mis ce temps à profit pour mener sa propre enquête, et effectivement, M. Kempf a interrogé
divers experts français. Je ne sais pas quelle est la liste des experts qu'il a interrogés, mais ce que je sais...
Comment savez-vous qu'ils sont français, alors?
Moi, je vais vous expliquer quelque chose, je peux terminer. Ce que je sais, c'est que lorsque cet article est paru, j'ai reçu des coups de téléphone d'experts français que M. Kempf avait interrogés et qui ont cherché à me joindre en me disant, voilà, c'est inadmissible. M. Kempf nous a interrogés. Nous lui avons dit qu'il n'y avait pas d'avion à cet endroit-là, que ça n'était pas possible. Et il ne nous cite pas dans cet article, mais il impute des propos à des gens qui ne sont pas nommés et nous ne savons pas de qui il s'agit. Alors c'est d'autant plus étonnant cette affaire-là que, si vous voulez, en France, des experts sur ces questions, en dehors du bureau enquête accident du ministère des Transports, vous avez quelques experts qui travaillent pour les tribunaux ou qui travaillent dans des universités. C'est un tout petit milieu, ils se connaissent tous, ils en ont donc largement discuté ensemble. Moi, je pose la question, s'il y a des experts... qui ont donné raison à M. Kempf, pourquoi leur nom n'apparaissait-il pas dans son journal? Vous êtes journaliste comme moi, vous avez appris que la première chose, quand même, qui crédite l'information, c'est de donner la source. Comment se fait-il que les noms des experts ne soient pas dans cet article? Ben, je vais vous le dire tout simplement, parce que aucun expert responsable ne peut tenir de tels propos. En effet, quand on pose la question de « y a-t-il ou non » trace d'impact. Et voyez, la phrase, quand elle commençait, elle ne parlait pas d'impact. La phrase, elle commence, il n'y a pas de débris. Le vrai problème, c'est où est la trace de l'impact. Bon. Parce que il peut y avoir des raisons qui fassent qu'on ne voit pas les débris sur la pelouse. Il pourrait être à l'intérieur, il peut y avoir tout un tas de raisons qui peuvent intervenir pour ça. Mais il doit y avoir une trace d'impact. Moi, je lance ce défi-là à M. Kempf, à M. Guinel et à tous les autres, d'expliquer à quel endroit du bâtiment l'avion a frappé. À quel endroit du bâtiment l'avion a frappé. Alors, on parlait tout à l'heure du cas de Monsieur Grangier, qui est considéré comme un des meilleurs experts français, on le cite partout. Bon, il a été invité à s'exprimer dans une émission de Canal+, qui était montée manifestement à charge contre moi, hein, tout le monde l'a noté, même Hervé Kempf l'a reconnu. Et lorsqu'on interroge Monsieur Grangier, on lui dit alors où est-ce que l'avion a frappé, etc. Et lui-même, il dit il peut pas avoir frappé la façade. Peut-être a-t-il frappé ailleurs, mais comme j'ai pas les autres photos, je peux pas dire. Peut-être a-t-il frappé ailleurs. En tout cas, il n'a pas frappé la façade. Bon, alors le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement américain, lui, est extrêmement précis sur l'endroit qui a été frappé. Alors c'est simple. Vous avez l'appel d'offres qui a été fait par le Pentagone pour la reconstruction du bâtiment et qui est accompagné des plans avec les relevés des dégâts. Et vous avez d'autre part les photographies qui ont été diffusées par le département de la Défense lui-même. Quand vous regardez ça, vous pouvez constater que l'objet qui a frappé le Pentagone est en fait entré par une porte, sans même abîmer le chambranle de cette porte. Alors, c'est une porte assez large puisqu'elle permet de rentrer les camionnettes, hein. Bon. Mais vous ne pouvez pas penser un instant qu'un avion qui fait 38 mètres d'envergure, 12 mètres de haut, plus de 100 tonnes, va rentrer par une porte sans abîmer le chambranle. S'il perd ses ailes, hein, dans un tel choc, s'il perd ses ailes, ben vous auriez les ailes à l'extérieur, hein, et vous auriez la trace du choc sur le bâtiment. Même chose pour la queue de l'avion. Bon. Vous n'avez rien de tout ça.
Quel expert dit ça?
Écoutez, attendez, moi je suis là, les bras m'en tombent. Écoutez, moi je...
Répondez à ma question.
Quel expert dit ça? Mais par exemple, j'ai fait il y a 15 jours sur Arab News Network, qui est un des plus grands, une plus grande chaîne mondiale, j'ai fait un débat avec experts aéronautiques.
Ce que vous reprochez, c'est Hervé Kempf de ne pas citer ses experts.
Oui.
Alors moi, vous faites une expertise, par exemple, je vous dis quel
est
l'expert.
J'ai été confronté au commandant Raja, qui a été le pilote du roi Hussein, qui a été le dirigeant de plusieurs compagnies aériennes, etc., qui est considéré comme un expert international. Il est venu faire son expertise sur le plateau face à moi. Il y avait 20 ou 40 millions de téléspectateurs. Hein, et voilà, il donne son expertise et il dit évidemment il n'y a pas d'avion à cet endroit-là.
Mais il n'est pas forcément expert en crash, il est pilote.
Bon, écoutez,
Moi, je vous dis que ce monsieur a été un, au contraire, il a travaillé pour, je sais plus comment s'appelle, l'organisme international qui s'occupe de ce genre de choses. Bon. J'ai eu l'occasion au cours des derniers mois de me trouver confronté dans différents pays à des experts qui, eux, s'exprimaient à visage découvert, pas des anonymes qu'on cite au coin d'un article dans le Monde, mais des gens qui s'exprimaient à découvert, et ils ont tous dit qu'évidemment j'avais raison. J'ai en plus rencontré des dirigeants militaires d'un certain nombre de pays qui avaient fait les mêmes constatations. Donc si vous voulez, moi, je trouve cette question, franchement, je trouve que c'est pas sérieux, votre question.
Bah, attends, si, elle est sérieuse.
Non,
elle est sérieuse.
Alors, écoutez, un enfant de quelques mois.
Vous accusez quelqu'un de ne pas citer ses sources. Moi, je vous demande de citer les vôtres.
Oui, je viens de vous le faire à l'instant. Et ce que je vous dis, c'est qu'un enfant de quelques mois apprend une chose toute simple. Il apprend à mettre une boule dans le trou circulaire, un cube dans le trou carré. Vous voyez ? Vous apprenez ça quand vous êtes un bébé. Bon, alors maintenant, vous avez une porte qui doit faire, je sais plus, 3 mètres de large, quelque chose comme ça. Comment vous faites pour rentrer un avion à cet endroit-là sans abîmer le bâtiment ? C'est quand même enfantin. Est-ce qu'il faut que vous fassiez des études pendant très longtemps pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche ?
Alors, Thierry Messon, Antoine, je vais vous arrêter quelques instants parce que cette antenne est tout d'abord dédiée aux auditeurs et oui, il y en a qui sont en attente depuis un bout de temps. Nous avons tout d'abord Jocelyne, après ce sera au tour de Samy. Jocelyne, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, moi c'est plus pour une réflexion que pour une question. J'ai pas lu le livre de Thierry Messon, mais je pense que, de toute façon, ce serait pas la première fois que le gouvernement, enfin américain, ou certains responsables politiques et militaires, ils en sont pas à leur premier coup fourré, hein. Mais le but de son livre, Thierry Messon, je me demande, c'est pour prouver quoi ? C'est pour prouver que les États-Unis actuellement sont en pleine déliquescence et que c'est la pourriture de l'intérieur.
Ah non, c'est pas du tout ça mon sujet. Non.
Non.
Non, non. Non, moi j'ai mené une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre et quelle signification politique ça a. C'est-à-dire, quelle signification politique ça a eu pour les États-Unis, pour leur politique intérieure et extérieure, et quelle signification politique ça a pour le reste du monde.
Oui.
Alors, moi, mon but, c'est pas de démontrer qu'il y a des bons et des méchants, c'est pas du tout ça. J'ai fait une enquête qui montre que la version officielle du gouvernement américain, elle ne tient pas la route. Et ça, je pense que cette partie-là de mon enquête est absolument indubitable.
Oui, mais moi...
Alors, attendez, je vous réponds, madame. Ensuite, j'ai essayé d'envisager différentes hypothèses pour expliquer les éléments que j'avais collationnés. Et j'admets tout à fait que cette deuxième partie de mon travail sera forcément largement contestée et que, de toute manière, elle n'est pas définitive parce que il nous manque encore beaucoup d'éléments pour pouvoir conclure de manière certaine. Bon. Mais là où j'en suis arrivé, de toute manière, ça me permet déjà d'affirmer que les gens qu'on a accusés d'être les auteurs de ces attentats ne sont pas les auteurs de ces attentats. Que les vrais auteurs des attentats, ils sont toujours là dans la nature, sans être inquiétés. Et je constate qu'aux États-Unis, cette manipulation a été profitable à un déplacement du pouvoir des civils vers les militaires et à un changement radical de la politique étrangère des États-Unis qui l'a conduit à agresser l'Afghanistan et qui maintenant lui sert de prétexte pour préparer une agression contre l'Irak, contre l'Iran, la Syrie, pour la déstabilisation de l'Arabie Saoudite, etc.
Voilà. Merci Jocelyne.
Merci.
Bonne soirée, au revoir. Le 01 45 75 44 44 est libre. Nous avons Samy qui veut vous poser une question, monsieur Messon. Samy, bonsoir.
Oui, bonsoir. Excusez-moi de me déranger. J'aurais souhaité poser une question. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui ont fait des investigations sur le même sujet? Est-ce qu'il y en a ceux qui sont arrivés au même résultat que vous?
Bah écoutez, au cours des trois derniers mois, on a vu des livres paraître dans différents pays qui vont dans le même sens. Alors, ils ne recoupent pas forcément tout ce que moi j'ai écrit dans mes ouvrages, mais ils vont dans le même sens. Alors ça, vous avez, j'oublie les noms. Il y a un livre. Alors, il y en a un qui est paru d'un auteur bengali en Angleterre. Il y en a un qui vient de paraître aux éditions EPO en Belgique. Il y en a un très important qui est paru au Japon récemment. Vous avez, dans plein de pays aujourd'hui, vous avez des ouvrages qui paraissent et qui remettent totalement en question la version officielle et essayent diverses hypothèses.
J'ai une question, je sais pas si vous permettez, parce que,
voilà, que j'ai pris... C'est très bien, il y a quelqu'un qui a trouvé le titre là du livre chez EPO, c'est « Pourquoi ils ont laissé faire les pirates de l'air ?» Voilà, de Peter Franzen.
Ouais. Parce que j'ai pris l'émission tout au début, mais j'ai pas su peut-être les 10 premières minutes, et parce que à certains moments, moi, quand j'ai écouté une fois à la télé, il y avait un invité qui a été invité après vous, quand vous avez parlé chez Ardisson, et j'ai l'impression qu'il vous attaque parce que vous faites plus partie du réseau Voltaire que pour contredire vos thèses. Et j'ai pas suivi, c'est quoi ce fameux réseau Voltaire? Je sais pas si vous avez déjà répondu ou pas.
Alors merci Thierry Messon, on va répondre à ta question et on te souhaite une bonne soirée, Samy.
Oui, merci.
Au revoir.
Le réseau Voltaire, c'est une association qui se bat pour la défense des libertés individuelles et pour la laïcité. Alors au départ c'était une association purement française, maintenant c'est quelque chose de très international, et nous avons plusieurs sites internet sur lesquels vous pouvez trouver toutes les explications que vous voulez sur ce que nous faisons, qui sont donc réseauvoltaire.net ou effroyable-imposture.net.
Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que vous me reprochiez en prenant cet exemple des ronds qu'on met dans des ronds et des triangles quand on est petit,
je suis vif dans la discussion.
C'est tout à votre honneur et ça ne met l'animation dans l'émission, c'est très bien. Mais c'est intéressant parce que ça correspond à une discussion que j'ai eue avec Hervé Kempf cet après-midi du Monde, qui me disait que vous vous appuyez sur le sens commun.
Ben oui.
Et selon lui, les expertises scientifiques ne vont pas forcément dans le sens du bon sens et elles peuvent être très éloignées du sens commun. Et ça se limite pas en fait à mettre des ronds dans des ronds et des triangles dans des triangles. Et à la,
enfin, pour le
à
moment, la... même Hervé Kempf n'a pas d'explication à comment un avion rentre par une porte.
Alors hein. à la question, pourquoi la façade du bâtiment ne s'est-elle pas écroulée tout de suite sous le choc, autrement dit, pourquoi est-ce que le trou est si petit par rapport à l'avion?
Il n'y a pas de trou.
On l'écoute par mon intermédiaire. L'avion qui emportait 50 passagers, 6 membres d'équipage et 3 ou 4 terroristes a frappé la façade ouest du Pentagone vers 9h37, avec selon les données parcellaires communiquées par le département de la Défense, une vitesse de l'ordre de 560 km/h. L'énergie, alors là c'est très technique, l'énergie cinétique d'un tel choc s'exprime par la formule 0,5 fois la masse multipliée par la vitesse au carré, soit pour un avion de 115 tonnes chargé de 75 tonnes de kérosène, une énergie de l'ordre de plus de 2 millions de kilojoules comparable à une énergie libérée par 490 kilos de TNT ou à celle représentée par la chute d'une masse de 2000 tonnes tombant à 200 mètres de haut. L'avion a pénétré horizontalement dans le Pentagone comme une flèche creusant un trou et perdant son énergie en perçant 3 bâtiments successifs ou anneaux selon la structure circulaire du Pentagone. La résistance initiale du bâtiment, dont une partie s'est écroulée dans l'heure qui a suivi le choc, s'explique par sa reconstruction très solide qui venait d'être renforcée dans le cadre de sa rénovation.
Mais ça répond donc absolument pas à ma question qui est comment un avion rentre par une porte. Vous voyez la réponse là-dedans? Il n'y a pas de réponse à ma question. Il y a un baratin qui permet de parler d'autre chose, mais il n'y a pas de réponse à la question. Et moi, ce genre de raisonnement, on peut s'amuser à faire des équations comme ça, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé au moment de Tchernobyl. Vous savez, il y a des gens qui disaient que le sens commun ne vaut rien et que eux, ils étaient des grands scientifiques et qu'en tant que grands scientifiques, ils pouvaient affirmer que le nuage radioactif de Tchernobyl s'arrêtait à la frontière administrative de la France. Voilà. Ben, je pense qu'il valait mieux avoir du sens commun.
Alors, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, Thierry Messon est notre invité ce soir pour une émission proposée par Didier Deplège, interviewé par Antoine Marette. Vous pouvez intervenir sur cette antenne, poser vos questions, d'ailleurs les standards sont pleins. Dès que vous entendez que ça raccroche, n'hésitez pas à appeler 01 45 75 44 44 ou 45 45. Et nous recevons Thierry Messon dans le cadre de son nouveau livre, La Suite, du premier, ça me paraît assez logique, c'est le Pentaguette. Et nous avons avec nous Jean-Christophe. Jean-Christophe, bonsoir.
Oui, bonsoir. Allô ?
Bonsoir.
Ouais, j'entends un petit peu. Bonsoir, bravo. Moi, j'ai une question qui sort, qui me projette un peu dans l'avenir. Quand on saura la vérité avec toutes les preuves nécessaires dont vous parliez tout à l'heure, quelle peut être la réaction des instigateurs de tout ça, quoi ?
D'abord, moi, je pense que lorsque le public aux États-Unis aura connaissance des éléments qui sont dans mes livres, il posera des questions à ses gouvernants et il se passera certainement des... Enfin, il y aura des conséquences politiques énormes. Vous savez qu'actuellement, ça fait déjà un mois ou deux que mon livre est imprimé en langue anglaise, mais il n'est toujours pas disponible dans les librairies aux États-Unis. Il y a eu une grosse campagne à travers la presse elle-même pour essayer d'empêcher la diffusion du livre aux États-Unis. Mais je pense que cette chose-là est inévitable, que ce livre va quand même être diffusé. Déjà, tout bien, il peut être acheté par correspondance par les Américains. Et moi, je vois les réactions des journalistes américains à qui j'ai envoyé le livre. Donc c'est des gens qui, il y en a quelques-uns qui m'ont rappelé, alors je vous dis pas tous, hein, mais enfin il y en a quelques-uns qui m'ont rappelé en me disant on avait entendu parler de votre livre, on croyait que c'était un pamphlet anti-américain, que vous, on nous avait dit que vous niez même l'existence des attentats, etc. Enfin tout un tas de bêtises comme ça. Et quand on l'a lu, on a été extrêmement surpris parce que c'est tout à fait autre chose. On découvre tout un tas d'éléments que on ignorait ou on avait négligé, et il faut absolument reprendre l'enquête. Donc actuellement, il y a des journalistes aux États-Unis qui ont commencé tant bien que mal des enquêtes, et je suis certain que dans les prochaines semaines, ou disons dans les deux mois qui vont suivre, on va voir des enquêtes publiées dans la presse américaine. Et mon pronostic est qu'à ce moment-là, le président Bush sera contraint de fournir des explications sur tout ça, qu'il sera amené à placer des fusibles successifs. D'ailleurs, il vient de commencer à placer un premier fusible qui va être le FBI, puisqu'il a accepté une commission d'enquête sur la, sur les ratés du FBI dans cette affaire. Mais
excusez-moi, c'est un fusible lui aussi?
C'est-à-dire qu'à la fin, oui, bien sûr, le président Bush sera le fusible ultime. Ça va se terminer par une procédure d'impeachment. J'ai appelé mon deuxième livre le Pentagate, parce que je suis absolument convaincu que dès que le public américain aura connaissance de tout ça, le mandat de Monsieur Bush, ce contrat en jour, et qu'il ne pourra pas terminer ce mandat, que ça se terminera que comme pour... Richard Nixon, il sera contraint à la démission avant d'être au risque de, s'il se maintenait, d'être lui-même destitué.
Et derrière lui?
Ah ben derrière lui, je pense que là, si ce fusible-là saute, ça m'étonnerait qu'on aille plus loin, si vous voulez, parce que le système est ainsi conçu que le fusible sera toujours politique, ça m'étonnerait qu'on aille plus loin, si vous voulez. C'est un peu comme dans tous les scandales qui ont agité de manière précédente les États-Unis, on n'a jamais été plus loin. Quand Nixon a démissionné, on n'a jamais su le fin mot de l'affaire du Watergate, on ne sait toujours pas. Le dernier fusible a sauté, voilà. Bon. Mais si le président Bush est amené à démissionner, et beaucoup de gens pense la même chose que moi. Récemment, en Russie, la Pravda, relatant mon travail, disait qu'elle anticipe, le chroniqueur de la Pravda anticipait cette démission du président Bush, considérant que c'était désormais simplement une question de moi. Et je pense que en fait, on ne saura probablement jamais le fin mot de la vérité, qu'encore une fois, pas plus qu'on ne sait ce qui s'est passé au Watergate, mais que la démission du président Bush permettra d'arrêter le processus de la dérive actuelle des États-Unis.
Merci pour tes questions, Jean-Christophe.
Je vous en prie.
Bonne soirée, au revoir.
Merci.
Romain est avec nous. Romain, bonsoir.
Allô, vous m'entendez ?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Déjà, bravo à Didier et à cette radio d'avoir le courage d'inviter le Paria des temps modernes. J'attendais avec impatience cette émission. J'ai lu le Pentaguette il y a pas longtemps. Vous parlez d'une caméra qui a filmé l'accident du Pentagone. Mm-hmm. Elle a dû filmer l'impact. Donc, où sont ces images qui prouveraient justement l'objet qui a percuté le Pentagone?
Ben, le problème, c'est que il y a 5 images qui sont publiées. Tout à l'heure, Pierre-Henri Bunel a dit qu'il disposait lui des autres images de la même caméra, mais sur aucune de ces images, on ne voit l'objet qui frappe le Pentagone. Alors, ces images ont un certain temps qu'il est d'espace, si vous voulez, et si il s'agissait d'un Boeing 757, compte tenu de sa taille, celui-ci devrait, au moins partiellement, obligatoirement apparaître sur l'une des images. S'il s'agit d'un objet de petite taille, se déplaçant donc à la vitesse qu'on sait, il est possible qu'il échappe à ces images compte tenu de l'espacement entre les images. C'est une caméra qui fait pas un système continu, si vous voulez. Bon. Alors, l'analyse des photographies dont Pierre-Henri Bunel a parlé tout à l'heure permet de voir non pas un objet qui frappe le Pentagone, mais permet de voir le tracé d'une fumée qui sort de cet objet, et qui reste, il y a une vapeur qui reste pendant quelques instants, et ça on le voit sur les photographies. Alors, cette vapeur ne peut pas correspondre à un Boeing 757, mais exclusivement à un missile, et encore pas à tous les missiles d'ailleurs.
Est-ce qu'il est possible que cette caméra ait loupé, si c'est un avion, ait loupé l'enregistrement de cet avion?
Non, elle peut pas louper ça. Et puis, s'il est exact que les photographies qui ont été diffusées sont bien à espace régulier et qu'il n'en manque pas dans cette série, si vous voulez qu'il en manque avant et après, mais pas dans la série, alors ça ne peut absolument pas être un avion, parce que, encore une fois, c'est quelque chose de suffisamment gros pour que ça passe nécessairement dans le champ de vision.
Mmh. Alors moi, j'ai été assez troublé après le 11 septembre par rapport aux affaires des lettres à Anthrax.
Oui.
Et maintenant, on sait tous...
Vous êtes quelqu'un d'attentif, parce que tout le monde a oublié ça.
Oui, et justement, moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'on ne fasse pas le rapprochement, puisque tout le monde sait officiellement que ces lettres sont américaines.
Oui.
Anthrax, qui a été envoyé, sort d'un laboratoire américain.
Oui, de Fort Detrick.
Ce qui, d'ailleurs, nous a permis d'apprendre que depuis 68-66, les États-Unis n'avaient plus le droit de détenir ce genre de...
Mais continuent à le faire.
Produisait. Voilà, en plus, ils l'ont modifié génétiquement pour qu'il soit encore plus nocif. Voilà.
Vous savez que tout ça se faisait sous la couverture du prétendu programme de national de lutte contre le cancer. Qui servait de couverture. Je dis ça comme ça, par hasard, ça rappelle rien à personne. Alors, sur la question de l'anthrax, je voudrais dire que, donc il y a une hystérie qui s'est développée aux États-Unis lorsque 5 lettres piégées ont été diffusées et ont tué 5 personnes. Or, dans les années précédentes, des lettres piégées à l'anthrax aux États-Unis, il y en a eu plus de 60.
Sur Europe 1, ils ont même cité 84 lettres envoyées en 99.
Bon.
Dans une fois.
Voilà. Vous avez un rapport complet sur le site de l'Université de Monterey, qui a fait donc la recension de toutes ces histoires de lettres à l'anthrax. Il y a eu des gens qui ont été gravement malades, etc. Mais à l'époque, tout le monde s'en foutait. Enfin, c'était des actes criminels qui ne retenaient pas l'attention.
Attribué à l'extrême droite.
Attribué à l'extrême droite, très précisément à une organisation qui s'appelle Army of God, qui est une organisation anti-avortement, et la plupart des destinataires étaient des médecins qui pratiquaient l'avortement. Alors, lorsque ces lettres ont été envoyées, on a choisi de les mettre en scène pour dire que ça provenait des islamistes, et on a trouvé toutes sortes de pseudo-preuves en racontant qu'elles avaient été envoyées depuis les localités où habitaient les pirates de l'air, où on a raconté que tel ou tel destinataire était un journaliste, une journaliste qui avait écrit sur Ben Laden ou des choses de ce genre. Et le président des États-Unis, George Bush, est lui-même intervenu à la télévision américaine pour créditer cette hystérie collective en déclarant lui-même sur un ton extrêmement dramatique que lui-même n'avait pas l'anthrax. Donc, toute cette hystérie a été mise en scène au moment où les États-Unis souhaitaient attaquer l'Afghanistan et pouvaient constater que l'opinion publique était en train de fléchir. Dans mon livre, j'ai publié un extrait d'un document qui est également disponible sur notre site internet, qui est un document interne de l'armée américaine, qui analyse l'évolution de l'opinion publique à cette période et montre que la mobilisation est en train de fléchir et que si on attaque l'Afghanistan, il est peu probable que l'opinion publique soutienne cette agression, qu'il faut donc la remobiliser en lui faisant sentir le danger. Et c'est à ce moment-là qu'on voit cette opération l'anthrax. Alors, vous avez souligné que depuis, il y a eu toutes sortes d'enquêtes qui ont pu montrer que les souches d'anthrax utilisées étaient fabriquées à Fort Detrick par l'armée des États-Unis. On peut toujours discuter de savoir si le scientifique qui les a diffusées l'a fait sur ordre ou l'a fait parce que c'est un timbré. Enfin, ça, c'est des discussions qui ne nous amènent pas très loin puisque nous ne pouvons pas du tout savoir ce dont il s'agit. Mais ce que nous voyons, c'est comment cette affaire a été utilisée, instrumentalisée. Et on doit se souvenir que les grands vainqueurs du 11 septembre, en fait, c'est d'abord le lobby militaro-industriel avec toutes les dépenses d'armement invraisemblables qui ont lieu depuis. Vous avez, deuxième bénéficiaire, le lobby pétrolier, avec la guerre d'Afghanistan et peut-être la guerre en Irak. Et puis vous avez, subsidiairement, le lobby de la pharmacie, étant entendu que d'ailleurs le financement de la campagne électorale de George Bush s'est été justement à travers ces trois groupes de pression et eux seuls. Dans l'industrie pharmaceutique, de grandes sociétés étaient au bord de la faillite avant le 11 septembre. On se souvient par exemple la société Bayer avait même commencé son dépôt de bilan. Mais après l'hystérie à l'anthrax, les pays de l'OTAN ont lancé des commandes gigantesques de programmes de vaccins, de toutes sortes de choses pour se prémunir d'un danger imaginaire. En France, par exemple, Monsieur Kouchner a commandé sans appel d'offres, de gré à gré, à la tête du client, 8 millions de doses de vaccins. On est heureux pour le bénéficiaire de cette commande industrielle, mais aux États-Unis, l'essentiel des programmes ont été également décidés sans appel d'offres de cette manière-là. Bon, pour ce qui est de Bayer, ils sont devenus très riches après le 11 septembre alors qu'ils étaient au bord du dépôt de bilan, mais c'est le cas de l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Et je tiens à vous rappeler que Donald Rumsfeld est l'ancien patron de GCA, numéro 4 mondial de la pharmacie.
Romain, merci pour tes questions.
Attends, j'ai pas posé ma question finalement.
Alors tu poses une dernière question, puis après on va libérer le standard pour les autres.
Auparavant, je rappelle quand même que on a appris sur Ici Maintenant, grâce à Fabien, c'est dommage qu'il l'ait pas rappelé tout à l'heure, il y a 3 semaines, un mois, où il est en direct de New York, il nous informait que en fait Pearl Harbor, les archives avaient été libérées, et que Pearl Harbor en fait était pas du tout comme c'était prévu, comme on nous l'avait dit pendant 50 ans, mais que c'était provoqué par les Américains. Mmh. Ça c'est une info Ici et Maintenant. Hein. Et par rapport à l'anthrax, donc ma question en fait c'était, moi j'ai fait le rapprochement avec le 11 septembre et je me suis demandé est-ce que c'était pas un coup d'état de l'extrême droite américaine en fait.
Merci Romain, bonne soirée.
Merci, au revoir. C'est une hypothèse qui me paraît la plus probable.
Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2. Thierry Messon est notre invité pour son livre Le Pentagone. Il est interviewé par Antoine Maret, Didier Deplège. C'est une émission proposée par Didier Deplège. 2 numéros de standard pour nous joindre. Et n'oubliez surtout pas que si vous voulez faire écouter cette émission à des amis qui sont en dehors de Paris, de toute l'île de France, c'est-à-dire environ 100 bornes autour de Paris, vous tapez ici-et-maintenant.com et vous pouvez écouter l'émission en direct, donc n'hésitez pas. Si vous avez internet pour nous joindre, 2 numéros de standard qui restent ouverts pendant la pause musicale, 01 45 75 44 44 et 01 45 75 45 45.
So they get some room for the sailboat, and they could get those where it is. It could get the runway for these workers. It could be a balloon. It could be Frankie's. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline charges for us. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. It could get a stockhouse. It could get the railroad for these workers. Well, it could be a balloon. It could be Frankie. It could be. Back to the rack and go back to the rack. It could be some workers. So, well, it could be a balloon. It could be Frankie. It could be. Which ones are the ones for? So if you know. So if you take your watch off, then is it to lose a break? These are the days, my friends, and these are the days, my friends. It could be some of that. It could be on your own. It could be where of all, the way I am this way. So if you know, you know. So this will be interwear. It could be so look here. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? You know, pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose a break. New York Phonic Center has the answer to your problems. Contactless lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them, and if you like them, and if you don't, they could refund your money. So this could be like into a satchel in the sky. A batch of cookies was on the way. These are the days, my friends. So this could be into a satchel. It could get a railroad for these workers. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There's no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose a break. Well, New York Phonic Center is the answer to your problem. Contactless lenses. Would it get some wind for the sailboat? And it could get for these workers. So these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There are no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose a break. Well, New York Phonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them, and if you like them, and if you don't, they could refund your money except for the examination fee. So if you're tired of glasses, go to New York Phonic Center, 11 West 32nd Street and 5th Avenue. For sight with no hassle, please call BR95555. Will it get some wind for the sailboat? And it could get those for it is. It could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline shortest ones. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Look. Batch, catch, hatch, latch, match, patch, snatch, scratch, swearing to God, Frankie Valley, who loves you, the Four Seasons. Would it get some wind for the sailboat? And it could get those for it is. It could get the railroad for these workers. It could be a balloon. It could be Frankie. It could be very fresh and clean. It could be. It could get some gasoline shortest ones. Zigzag, all these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Which ones are the ones for? So if you know, so if you take your watch off, there is a to lose a break. These are the days, my friends, and these are the days, my friends. It could be some of the, it could be on your own, it could be where of all, the way I am this one. So if you know, you know, so this will be into where it could be, so look here. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There's no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose a break. New York Phonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and the new soft lenses. The center gives you 30 days and see if you like them. And if you like them, and if you don't, they could refund your money except for the examination fee. So this could be like into a satchel in the sky. A batch of cookies was on the way. So this could be into a satchel. It could get a railroad for the workers. Do you know they just don't make clothes anymore for people who wear glasses? There are no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose a break. New York Phonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and the new soft lenses. Would it get some wind for the sailboat? And it could get for these workers. All these are the days, my friends. And these are the days, my friends. Do you know they just don't make any clothes for people who wear glasses? There are no pockets anymore. So if you take your glasses off, they're easy to lose or break. New York Phonic Center has the answer to your problem. Contactless lenses and...
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
Radio Ici et Maintenant 95.2, nous sommes avec Thierry Messon pendant encore à peu près 30 minutes. Alors tout à l'heure, vous parliez en gros de l'absence de kamikaze, en tout cas...
J'ai parlé de ça moi.
Oui, ah, enfin, c'est ce que j'avais cru comprendre. En tout cas, non,
j'en parle d'absence mais je pense
pour
le Pentagone.
Et également, en grande partie, vous dites en gros que les attentats du World Trade Center étaient en fait télécommandés.
Non, je dis pas ça. Je dis que c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse.
Alors, je dis, par contre, c'est que l'hypothèse... ce que j'explique par contre dans le livre, c'est que la version du département de la justice selon lesquelles les deux avions qui ont frappé le World Trade Center étaient détournés par 10 pirates de l'air dont on a donné le nom, je dis que cette version est fausse parce que ces gens-là n'étaient pas dans les avions.
Alors, est-ce que cette hypothèse,
oui,
puisque vous restez prudent, n'a pas été mise à mal par le témoignage récent de pirates de l'air qui ont été diffusés à Al Jazeera le jour de l'anniversaire du 11 septembre. Alors, on voyait, alors je répète pour les auditeurs, on voyait deux kamikazes, je ne sais plus exactement, qui avouaient leurs attentats qui avaient été filmés en montage avant qu'il n'aille s'exploser dans les tours et au Pentagone. Alors, est-ce que ça remet pas en partie en cause cette hypothèse?
Non, pas du tout, parce que les documents en question sont des vidéos dans lesquelles les déclarations sont d'une grande imprécision, mais surtout, ce qui est très frappant, c'est la manière dont elles ont été enregistrées. Puisque vous avez là prétendument des confessions, une revendication plutôt par des gens avant qu'ils ne commettent un crime, hein, c'est bien comme ça qu'on le présente. Or, c'est enregistré non pas dans un camp d'entraînement ou dans une grotte en Afghanistan, c'est enregistré dans un studio de télévision avec des moyens extrêmement sophistiqués, puisqu'il y a un fond bleu qui est derrière, qui permet après coup une incrustation, puisque on incruste après coup à l'arrière
des images de l'attentat.
Des images de l'attentat, c'est-à-dire c'est un montage. C'est-à-dire qu'on vous a montré des vidéos dont on vous dit dès le départ que c'est un montage. Dès le départ, on vous dit ça. Donc, excusez-moi, mais par définition...
Où il y a un des kamikazes qui avoue son crime. Enfin, qui avoue ses intentions et qui avoue ce qu'il va faire.
Ce que je vous explique, c'est que c'est un montage et que absolument tout le monde était forcément d'accord sur le fait que c'est un montage, puisque vous avez un système d'incrustation qui est utilisé.
Visuellement, c'est un montage, oui, on est d'accord.
Ça, on est d'accord, oui. N'est-ce pas? Bon. Donc, ce genre d'éléments, par définition, devant un tribunal, dans le cadre d'une enquête criminelle, serait automatiquement rejeté.
Et sur ce qu'il dit, et on voit la tête, donc l'identité de la personne qui parle,
n'est pas en cause.
La
signification de la chose est en cause.
Mais ce qu'il dit, et avec son identité, ça, c'est pas remis en cause.
Pas du tout.
Donc c'est quand même une pièce à conviction. dans le sens dans le sens
alors manifestement vous n'avez pas lu mon livre puisque je fais une je fais une longue explication sur qui est Ben Laden, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire, que Ben Laden est un agent des États-Unis depuis le départ, continue tout au long de l'histoire à être un agent des États-Unis et toujours aujourd'hui un agent des États-Unis. Chose qui a été extrêmement choquante quand je l'expliquais dans le monde arabe, croyez bien, c'est une la chose la plus difficile à expliquer là-bas, mais finalement j'ai convaincu tous mes interlocuteurs. Or, je donne comme exemple, je reviens sur la question de la vidéo de Ben Laden, qui est de même nature que ce que vous me racontez là. Et donc, je note que dans la vidéo de Ben Laden, il y a plein de choses complètement idiotes qui n'ont été enregistrées par Monsieur Ben Laden que dans l'intérêt du gouvernement des États-Unis. Et je donnais un exemple à l'époque, j'en avais qu'un. Aujourd'hui, dans la même cassette, j'ai un deuxième exemple. Le premier, c'était de signaler qu'à la fin de la cassette, Oussama Ben Laden revendique d'avoir envoyé un avion sur le Pentagone. Et je vous dis, je vous fais la démonstration que ce qui a touché le Pentagone, c'est pas un avion. Et dans la même cassette... Mais là, je ne l'avais pas relevé dans le livre, puisqu'à l'époque, il nous manquait des éléments que nous avons depuis. Il raconte, et c'est d'ailleurs tout le monde l'a cru, puisque c'est dans la cassette, vous avez l'aveu. Hein, il raconte qu'il a fait des calculs pour que les avions qui frappent le World Trade Center le frappent au bon endroit, provoquant ainsi l'effondrement des tours. Et donc, sur la bonne foi de l'aveu de Monsieur Ben Laden, tout le monde a écrit, eh bien, le choc des avions et la combustion des avions a provoqué l'effondrement des tours. Alors, manque de chance, la commission d'enquête de la FEMA, l'organisme de gestion des catastrophes aux États-Unis, et de l'agence de l'association des ingénieurs américains a remis son rapport qui était remis au Congrès des États-Unis cet été. Analyse, alors avec toutes sortes d'expertises, de contre-expertises et tout ce que vous voulez, et force, détails et schémas, ce qui s'est passé dans le World Trade Center et montre, c'est la conclusion du rapport, que en aucun cas le choc des avions et leur combustion n'a pu provoquer l'effondrement des deux tours. Et le rapport conclut même qu'on ne sait absolument pas pourquoi ces tours se sont effondrées, mais que ça ne peut surtout pas être cela. Et à tel point que la FEMA vient de lancer un programme de recherche de 2 ans avec des crédits très importants pour que quelqu'un puisse émettre une hypothèse, car aujourd'hui on n'a aucune hypothèse, une hypothèse explicative de l'effondrement des tours. Et de toute manière... je vous rappelle que ça là, n'explique absolument pas l'effondrement de la troisième tour, la tour numéro 7, contenant la base de la CIA, dont on a parlé tout à l'heure, qui elle n'a été touchée par aucun avion, et jusqu'à preuve du contraire, les tours s'effondrent pas toutes seules.
Radio Lycée maintenant, 95.2.
Votre question, c'était sur l'histoire, au départ, l'histoire des... Est-ce que les avions étaient télécommandés, hein, je vous ai entendu dire. Alors, à ce sujet, moi je constate que aux États-Unis, le général Grandepré, qui est donc le colonel Grandepré, pardon, qui est un
rapidement parce qu'on a
une personnalité qui genre un peu, voyez, genre général Bijard en France, voyez le ce genre de personnalité ayant dirigé des forces spéciales, etc. Qui est pas quelqu'un d'une grande finesse, mais dont les compétences sont incontestées, a organisé une conférence de presse il y a un mois.
Où il dit qu'on peut piloter un avion de ligne, on est militaire, sans problème. C'est ce qu'il a dit.
Il a donné tout un tas de détails là-dessus. Il a surtout, au cours de sa conférence, présenté les responsables du programme Global Hawk, donc le programme qui avait été mis au point par la firme Boeing pour le compte du département de la défense et les expériences qui ont été faites pour piloter à distance un Boeing.
Radio ici maintenant 95.2, libre antenne ce soir avec Thierry Messon pour son livre Le Pentagate. Et nous avons avec nous au téléphone en direct Andrew. Bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Thierry Messon. Ma question en fait pencherait. Bon, je suis pour votre thèse. Disons, j'accrédite la thèse qu'il n'y a aucun avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, mais j'ai quand même du mal à imaginer, malgré tout le complot qu'il y a derrière, comment on peut faire disparaître l'avion qui est supposé s'être écrasé, donc avec tous ses passagers. Donc, est-ce que vous avez réussi à dégager une hypothèse concernant cet avion qui a quand même, qui est quand même passé quelque part?
Oui, bien passé quelque part. Moi, la seule chose que je sais, c'est que 40 minutes avant l'attentat du Pentagone, 40 minutes avant, la Fédération de l'Aviation Civile, la FAA, a déclaré que cet avion était perdu au-dessus de l'Ohio, à la limite de la Virginie occidentale, dans une zone qui correspond à une réserve naturelle totalement inhabitée. Bon. Donc, cette information n'a jamais été démentie par la FAA elle-même, mais a été démentie le lendemain, je crois, par le vice-président Cheney. Voilà, puisque lui, il dit qu'on a retrouvé l'avion 500 km plus loin, dans les ruines du Pentagone. Mais l'originalité de cette histoire rocambolesque, c'est que si on croit ce que raconte Monsieur Cheney, que l'avion donc aurait fait 500 km comme ça, il faudrait admettre que l'avion a échappé au radar civil, au radar militaire, aux avions de chasse lancés à sa poursuite et aux satellites de la NSA. Et bon, ben ça, personne peut y croire une minute.
Merci Andrew.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Comme Andrew, vous pouvez intervenir au standard. Il vous reste quelques minutes. Deux numéros de téléphone, 01 45 75 44 deux fois ou alors 45 deux fois. Alors, on va revenir sur les témoignages visuels de cet attentat contre le Pentagone. Mmh. Et il y en a.
Oui.
Alors, là-dessus, j'ai pas été très convaincu par, je vais vous le dire, par ce que vous dites dans votre livre.
D'abord parce que vous notiez là, parce que ça a l'air de dire que finalement vous étiez convaincu par le reste.
J'ai pas dit ça. Hein.
Ah, ça je vois que depuis le début vous en prenez des précautions.
Mais votre argumentation se base essentiellement sur la remise en cause des témoignages sur l'avion et l'exploitation en outrance de quelques témoignages ambigus, qui parlent pas du tout de missiles, mais qui sont ambigus, qui pourraient éventuellement laisser la place à un missile, et les autres, vous les évacuez. Il y a de nombreux témoignages visuels, il y a celui du pompier Alan Wallace, je les ai tous notés, retraité Ralph Banton, l'assistant parlementaire Fred Hay, l'employé d'un journal Mike Walter, le contremaître Kirk Milburn, le designer graphique Steve Patterson, le consultant en télécommunication Azewok Agus et le journaliste David Winslow. Alors, je donne leurs qualités parce que on peut pas tous les accuser d'être militaires. Je lis juste le témoignage de Winslow. Donc, il dit « J'étais de repos ce jour-là, je regardais à la télévision les images des attentats sur New York. À ce moment, vers 9h30, j'ai entendu un son énorme de moteur d'avion. Mon frère est pilote d'avion ainsi qu'un très bon ami, je connais ce bruit. Je l'entendais de plus en plus fort, j'ai tourné la tête vers la droite par la fenêtre. J'ai vu une queue énorme d'avion passer à toute vitesse. J'ai distingué un logo rouge. Et puis, bang sur le Pentagone, une énorme boule de feu. Je suis journaliste depuis des années, je le jurerais sur ma vie. C'était un avion. » Et dans le livre, vous citez bizarrement son témoignage, mais vous ne rajoutez rien pour le contredire, alors que le témoignage est extrêmement clair. C'est un témoignage visuel qui va totalement à l'encontre de votre théorie.
Alors, moi, j'ai fait ce que l'on fait dans toutes les enquêtes criminelles quand on observe des témoignages. Premièrement, quand on prend des témoignages, on doit tous les prendre en compte. Deuxièmement, on ne doit, dans ces témoignages, que prendre la première version, celle qui est recueillie immédiatement après les faits, et ne pas prendre des versions ultérieures, car on sait que les témoignages évoluent considérablement dans les semaines suivantes, soit sous l'effet du choc psychologique, soit sous l'effet d'une pression sociale. Bon. On doit donc s'en tenir, on est bien d'accord, aux éléments qui ont été recueillis juste après l'événement que l'on veut décrire. J'ai donc, dans mon livre, repris tous ces témoignages recueillis juste après.
Ceux que j'ai cités ne sont pas tous présents dans le livre.
Écoutez,
moi, j'ai regardé, j'ai fait la comparaison, et il y en a un certain nombre, c'est vrai, mais pas tous.
Alors moi, je peux vous dire que, je peux aussi vous faire des bottins téléphoniques si vous voulez, mais je vous assure que j'ai pris tous les témoignages qui ont été publiés dans la presse américaine, écrite et audiovisuelle, dans les deux jours qui ont suivi l'attentat du Pentagone. Je constate que ces témoignages sont contradictoires entre eux. J'ai donc essayé de comprendre ces contradictions. Dans aucune enquête criminelle, quand vous avez comme ça beaucoup de témoins, dans aucune enquête criminelle, vous ne trouverez d'unanimité des témoins. Vous devez donc essayer de comprendre pourquoi les gens vous disent quelque chose, et vous devez surtout attacher une importance primordiale aux témoins qui s'évertuent à vous dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on attend de lui. Il y a des gens, parfois, ils disent « Mais non, c'est pas comme ça, c'est telle autre chose. » Ils insistent. Alors, il faut faire très attention à ceux qui insistent à autre chose. Ça, c'est ce qu'on fait dans toutes les enquêtes criminelles. C'est ce que font également tous les sociologues face à ce type d'événements. Bon. Dans la liste que vous avez citée tout à l'heure, et vous auriez pu en rajouter, puisque, par exemple, M. Guinel, dans son livre, dit qu'il a rencontré 18 témoins, néanmoins, il donne la liste de ces 18 témoins, mais il n'est capable de citer que les propos d'un seul témoin. Il se trouve que les propos qu'il cite sont justement incompatibles avec la version que lui défend. Bon. Moi, dans mon livre, j'ai donné différents témoignages. À la fin, j'ai même reproduit les témoignages qui ont été recueillis par Digipresse, de manière à ce que on voit la diversité de ce qui est raconté. Alors, dans le cas que vous citez tout à l'heure, il se trouve qu'il y a un vrai problème de capacité à voir une telle chose. Parce que quand vous êtes dans un immeuble et qu'il y a un avion qui passe à toute vitesse juste devant vous comme ça, enfin, il faudrait savoir ce que vous pouvez voir.
Même très rapidement, on peut reconnaître un avion de ligne d'un missile. Même moi, je pense que j'y arriverai en une seconde.
Vous
même
pensez moi. Que vous y arriverez? Parce que je vous demande quand même une chose toute simple. Vous êtes sur le bord d'un circuit de Formule 1. Vous avez une voiture qui passe devant vous à 300 à l'heure. Vous reconnaissez le type de la voiture, vous?
Ben, je tourne la tête demande. Pour la suivre du regard.
Mais et attendez, donc, il dit qu'il est la voit passer par la fenêtre, il est chez lui, vous voyez un peu le champ visuel qui est sien, c'est non,
il tourne pas la tête. S'il est proche de la fenêtre, il a un champ visuel suffisamment large.
Il vous a pas dit qu'il avait vu au-delà de la fenêtre. Il vous a dit ça passe comme ça devant moi.
Non, on peut reprendre son témoignage.
Je peux continuer s'il vous plaît. Donc ce que je dis, c'est que si vous vous trouviez dans cette situation, vous ne pourriez pas, avec une voiture à 300 à l'heure, vous ne distingueriez pas même que c'est une voiture. Simplement, votre mental va reconstruire le fait que c'est une voiture, parce que vous savez que ça peut pas être autre chose. Bon, mais si vous dites que vous connaissez le type de la voiture, et si vous dites que vous avez vu marqué sur la voiture le nom des sponsors, vous êtes un rigolo. Bon, là, vous avez quelqu'un qui prétend voir des choses. Il est convaincu de l'avoir vu. Moi, je ne mets pas en doute sa bonne foi. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que dans ce type de situation, l'œil humain n'a pas la capacité de voir certains détails. Bon. Ensuite, vous m'avez cité, par exemple, tout à l'heure, Monsieur Mike Walters. Vous l'avez dit dans votre liste.
Employé
d'un journal. Vous avez dit. Donc c'est très simple.
Employé du journal USA Today.
USA Today. Donc le cas de Monsieur Walters, je me permets de revenir dessus parce qu'il est exemplaire puisque nous avons trois vidéos de Monsieur Walters enregistrées à des moments différents où Monsieur Walters décrit de manière totalement différente les trois fois le même événement avec toujours la même sincérité et je ne doute pas de sa sincérité. Mais le problème, c'est qu'il a trois versions totalement incompatibles entre elles. Alors moi, j'ai décidé, dans la démarche que je vous indiquais, de m'en tenir à sa première version. Parce qu'aujourd'hui, il raconte qu'il a vu un Boeing d'American Airlines avec force au détail, etc. Et si on continue la quatrième fois, il va nous raconter qu'il a vu les gens dire bonjour
par Mais avec par le la temps, on peut se souvenir de détails aussi.
Bon, écoutez, ce que je vous explique, c'est que dans toutes les enquêtes criminelles, il y a vous savez, si on vous fait faire... quand vous êtes témoin dans une affaire criminelle, on vous prend tout de suite votre déposition. C'est parce qu'on sait que les éléments que vous allez donner à chaud ont une valeur bien supérieure à ceux que vous répéterez des mois plus tard.
Mais bon. Quand même, dans ce alors, que vous dites là, sur les témoignages,
je peux terminer.
Il y a beaucoup d'interprétations.
Il se trouve que Monsieur Walter, au départ, il dit « J'ai vu quelque chose qui passait à toute vitesse et il n'a rien distingué. » Hein? J'ai vu quelque chose qui passait à toute vitesse et il dit c'était comme un missile de croisière. Ça, c'est ce qu'il dit le jour même quand il est enregistré par CNN.
Ça peut être une métaphore.
Mais bien sûr que ça peut être une métaphore. Mais ce qui est curieux, c'est que si c'est une métaphore, elle est très intéressante. Parce que c'est la question qu'on lui a posée après, il dit c'est une métaphore. Mais alors, pourquoi c'est une métaphore? Ben, c'est une métaphore pour la raison suivante. C'est parce que la seule chose dont il se souvient et qui le surprend, c'est que l'objet qui passe devant ses yeux, et donc il n'a pas le temps d'identifier, hein, Et il dit, c'est comme un missile de croisière. Cet objet ne s'est pas écrasé sur la façade. Ce qui le surprend, c'est que l'objet rentre dans le bâtiment sans s'écraser sur la façade. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est comme un missile de croisière. Parce qu'effectivement, les avions, ça s'écrase, les missiles, ça pénètre.
Alors là, il est. Je termine juste là-dessus. Et on va prendre les auditeurs ensuite. Mais ça me semble très important parce que là, on est en phase de témoignages visuels.
Oui.
Donc qui ont quand même le plus de crédit. Et vous, vous interprétez ces témoignages. Mais vous leur donnez des interprétations. Je termine juste. Hein, et vous répondrez ensuite. Vous leur donnez des interprétations qui arrange beaucoup votre théorie. Et par exemple, moi, ce qui m'a le plus marqué dans votre livre, c'est que vous dites les gens qui ont vu cet qui ont soi-disant vu cet avion, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont regardé les attentats du World Trade Center avant, ils ont pensé avion, et quand ils ont vu le missile s'approcher du Pentagone, ils se sont dit c'est un avion. C'est quand même très interprétatif, tout ça.
Bon, moi, dans
c'est ce que vous dites, on est bien d'accord. C'est l'effet deep, je sais pas quoi.
Oui. Ce que, encore une fois, moi, j'ai repris je présente dans le livre les témoignages les plus précis. Je montre qu'ils sont contradictoires entre eux. Et je conclus, l'examen des témoignages et de leurs contradictions permet de conclure que l'attentat a bien été commis au moyen d'un engin volant. Ils permettent donc d'écarter les hypothèses d'un véhicule piégé et d'un hélicoptère. La nature de l'appareil qui a percuté le Pentagone reste cependant très problématique. Les témoins ne permettent en effet pas de trancher pour déterminer s'il s'agit d'un avion ou d'un missile, et encore moins d'affirmer qu'il s'agit du vol 77 d'American Airlines. Ça, c'est la conclusion que je présente de ces témoignages. Et c'est pour ça que, dans les chapitres suivants, j'analyse après les dégâts qui ont été commis, j'analyse les photographies dont on dispose, etc. Quand on veut savoir ce qui s'est passé dans une enquête criminelle, on ne se limite pas à tel ou tel élément. On essaye de prendre tout. Moi, simplement, la chose que j'ai montré quant aux témoignages, quand on les examine, les témoignages visuels, ils sont contradictoires entre eux. La seule chose qu'ils permettent d'affirmer, c'est que l'attentat a été commis au moyen d'un objet qui volait et qui est rentré dans le bâtiment. C'est la seule chose qu'on peut dire avec ça.
Alors très bien, messieurs, nous n'allons pas faire non plus attendre trop longtemps les auditeurs. Thierry Messant, juste avant de faire intervenir Denis et Jean-Michel, une question de Didier Deplège. Un moyen de savoir où se trouvait l'avion, assez facilement, c'est simplement d'interroger les relais de portables téléphoniques des compagnies privées lorsque les appels ont été passés.
Alors là, c'est encore plus drôle parce que les fameux appels des passagers pour dire ce qui se passe dans les avions, il y a des appels qui sont censés venir de chacun des quatre avions. Et alors, on a cherché à vérifier les horaires exacts, etc. Donc, on a regardé c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est des journalistes américains, ont regardé les factures téléphoniques correspondant aux différents mobiles. Or, on n'a pas pu trouver, pour aucun de ces communications téléphoniques, on n'a pas été en mesure de dire sur quelle ligne ça a été fait.
C'est-à-dire qu'on n'a pas pu trouver le récepteur qui permettait de faire passer le coup de téléphone. C'est tous les 50 kilomètres environ.
Non, mais
les
attendez, c'est pas ça. C'est pire que ça. C'est bien pire que ça. Les journalistes américains, ils ont cherché sur les factures téléphoniques des mobiles appartenant aux passagers sur lesquels, apparemment, ils téléphonent depuis leur mobile. Bon. Ben, les factures téléphoniques ne font pas apparaître ces communications. Bon. Donc, on n'a pas pu en vérifier l'existence matérielle. Alors, le cas le plus invraisemblable étant celui de Madame Barbara Olson, qui était censée justement se trouver dans le vol 77, celui qui se serait écrasé sur le Pentagone. Donc, Madame Olson, d'après son mari, lui a téléphoné 3 fois. La conversation a été interrompue. Donc, d'après son mari, ils ont eu le temps de se dire au revoir, mais pas de dire grand-chose finalement, puisque, à part de dire que l'avion était détourné, elle n'a rien dit d'autre. Bon. Donc, Monsieur Olson a d'abord dit que la communication était passée depuis le portable. Puis ça a été vérifié que c'était pas le portable. Alors il a dit, en fait, elle m'a téléphoné en utilisant le téléphone de bord. Et vous savez, dans les classes affaires, là, vous avez un téléphone de bord dans la coudoir que vous faites marcher avec une carte bancaire. Alors à ce moment-là, les gens ont dit, bah, alors si la dame elle a utilisé le téléphone de bord, il y a une trace de la transaction bancaire, puisque c'est fait par une carte bancaire. Il n'y a pas la trace de ça. Il n'y a rien. Personne n'est capable de dire quelle est la ligne téléphonique qu'a utilisée Madame Olson.
Mais vous nous parliez d'un statu quo un peu de la presse américaine.
Oui.
Comment ont été vus les journalistes qui ont osé faire des recherches sur les coups de fil passés pour savoir exactement d'où venaient ces coups de fil, d'où étaient-ils partis? Ils ont été
deux directeurs de journaux qui ont été virés séance tenante parce qu'ils s'intéressaient à ces choses-là.
Très bien.
Et peut-être aussi que on est en pleine enquête, en pleine instruction, et que la justice, notamment parce qu'il s'agit du Pentagone, que c'est quand même un endroit qui doit rester en partie secret. Peut-être que pour cette raison de justice, les informations ne sont pas révélées au grand public pour l'instant aussi. C'est peut-être tout simplement ça.
Ben, vous savez, vu le désordre que c'est en train de faire dans le monde entier, parce que, encore une fois, je disais tout à l'heure, l'impact de mes travaux dans le monde, le livre est disponible en 18 langues, il est best-seller dans tous les pays où il est paru. Compte tenu des polémiques qui se développent, quand vous avez plus d'une dizaine de gouvernements qui ont déjà pris position pour soutenir mes travaux. Franchement, les États-Unis sont pas bien malins de pas apporter tout de suite les preuves décisives. Hein.
Mais ne peut-on pas mettre ça sur le compte d'un anti-américanisme qui commence à progresser en force dans le monde, le fait que ces thèses soient étayées par beaucoup de personnes?
Le fait de se poser la question de qui sont les vrais coupables, c'est de l'anti-américanisme?
Non, je vous demande.
Attendez, le fait de se poser les questions de qui sont les vrais coupables, c'est les réactions normales de tout être humain qui est horrifié par les événements qui ont eu lieu. Et ce qui est curieux, c'est qu'aux États-Unis, on a refusé de poser la question de qui sont les coupables, on les a désignés avant de faire une enquête. On a dit tout de suite, on les a trouvés. Et moi, mon sentiment, c'est que normalement, dans une enquête criminelle, on regarde toutes les pistes possibles, et puis on va au bout de chaque piste, et puis quand on a des éléments déterminants, on annule telle piste, et puis on conserve telle autre, etc. On agit comme ça. Bon. Mais si d'emblée, on pense que des attentats comme ça, ça ne peut pas, par principe, avoir été commis par des Américains, et que par principe, ça doit être commis par des étrangers, et tant qu'à faire par des Arabes. Ben, quand on a un présupposé comme ça, ça s'appelle de la xénophobie.
Très bien, nous accueillons Denis qui a patienté. Denis, bonsoir.
Oui,
on va dire bonjour là maintenant.
Oui, bonjour. J'ai juste deux questions. Ces trois tours, elles sont écroulées comment, si c'est pas à l'impact des avions? Et pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce que l'Amérique attaque l'Afghanistan?
Merci beaucoup, Denis.
Pour la question de l'effondrement des tours, on est dans les hypothèses, puisque pour le moment, encore une fois, ce qu'on avait dit au départ, du choc des avions et de la combustion provoque l'effondrement des deux premiers tours, et puis les vibrations dans le sol déstabilisent les fondations de la troisième tour. Tout ça, on sait que ça marche pas, c'est faux. Bon. Par contre, on doit entendre ce que nous disent les pompiers de New York, qui dans leur journal professionnel...
Les scientifiques, enfin les gens spécialisés, oui. Enfin j'ai vu pas mal de démonstrations, notamment à la télévision, disent que c'est possible. Hein.
Bah écoutez, moi je vous renvoie, les gens qui disent ça à la télévision, c'est très drôle, mais je vous répète...
Des spécialistes, disons.
Je vous répète qu'il y a eu pendant des mois, ça s'est terminé au mois d'août, une enquête qui a été déclenchée par la FEMA, l'Agence de gestion des catastrophes aux États-Unis, qui a été réalisée par l'Association des ingénieurs américains. Ça a impliqué tous les plus grands spécialistes américains. Ils ont rendu leur rapport au Congrès des États-Unis et eux, à la suite de leurs discussions entre eux, des expertises et des contre-expertises, ils concluent que ça n'est pas possible. Voilà. Donc, je voudrais terminer. Les pompiers de New York, dans leur journal professionnel, ont écrit qu'ils avaient vu et entendu des explosions à des endroits différents dans les tours. Et ceux d'entre vous qui ont regardé le film des frères Naudet qui a été diffusé à l'occasion du 11 septembre sur France 3, je crois, ont pu voir que après le premier attentat, les pompiers se précipitent sur place et arrivent 2, 3, 4 minutes peut-être plus tard. Et quand ils arrivent dans le bâtiment, les frères Naudet sont là à filmer, et quand ils arrivent au rez-de-chaussée, on entend des explosions, ça se met à vibrer de partout. Donc il y a bien eu des explosions. Bon. Alors il faudrait savoir qu'est-ce qui a provoqué ces explosions. Alors on peut dire il y avait peut-être des substances dangereuses qui étaient détenues dans ces tours et qui ont explosé à cette occasion-là. Le problème c'est que malgré les recherches des pompiers de New York, on n'a pas trouvé quelles pouvaient être les substances explosives contenues dans le World Trade Center. Bon. Pourtant, il y a bien eu des explosions, et ce sont ces explosions qui ont provoqué l'effondrement des tours. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ces explosions? Donc, c'est ça que tout le monde est en train de rechercher. Mais évidemment, il est normal d'émettre une hypothèse qu'il y ait eu des explosifs dans les tours.
Thierry Messon, juste avant de faire intervenir Jean-Michel.
Oui, l'Afghanistan.
Bon, allez-y, je vous poserai des questions après.
Alors, l'attaque de l'Afghanistan est quelque chose qui a été prévu bien avant les attentats du 11 septembre, puisque la décision a été prise au mois de juillet 2001, que nous avons des témoins de ça. Nous avons le témoignage de Naïs Naïk, l'ancien ambassadeur en France, à Paris, du Pakistan, qui était par ailleurs négociateur du Pakistan dans les grandes négociations qui sont tenues à Berlin sur l'avenir de l'Afghanistan et la construction du pipeline. Donc il dit qu'au moment de la rupture des négociations, les Américains ont annoncé qu'ils allaient faire la guerre en Afghanistan. C'était à la mi-juillet que justement rentrer dans son pays, je raconte ça dans le livre et personne ne l'a relevé, il a prévenu son gouvernement de ce qui allait se passer, et à ce moment-là, ils ont cherché de nouvelles alliances à l'extérieur, parce qu'ils voulaient pas se trouver en tête à tête avec les Américains, seule puissance dans la région. Donc, le Pakistan a invité des dirigeants chinois, leur a proposé de leur ouvrir un couloir vers l'océan Indien, pour désenclaver le sud de la Chine. Les Américains et les Anglais, voyant que la donne allait être modifiée dans cette région, ont décidé d'accélérer la préparation de la guerre en Afghanistan. À ce moment-là, au cours du mois d'août, les Anglais ont déplacé l'essentiel de leur flotte dans le golfe d'Oman pour préparer l'attaque de l'Afghanistan. Et les Américains ont commencé à déplacer leurs troupes en les amenant d'abord en Égypte. Ils ont amené 40 000 hommes en Égypte au cours du mois d'août. Bon. Les événements du 11 septembre ont simplement permis aux États-Unis et aux Britanniques de présenter à la face du monde cette opération vulgaire expédition coloniale pour s'approprier un pays et construire un pipeline, de présenter ça comme une riposte aux événements du 11 septembre. Mais ça aurait eu lieu de toute manière.